comme les transporteurs professionnels, assurez vos marchandises chez Suno Assurance, présente dans plus de 14 pays d'Afrique. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Une fracture du poignet ou de la hanche sans traumatisme, une diminution de la taille. Dans Priorité Santé aujourd'hui, nous parlons de l'ostéoporose, une maladie chronique pour laquelle l'âge, le vieillissement constitue un facteur majeur de risque. L'âge et le sexe, puisqu'environ 40% des femmes sont concernées à l'âge de 65 ans contre 15% des hommes. La diminution de la densité de l'os, devenue plus fragile, implique davantage de risques de fracture. Pour d'autres formes, l'ostéoporose est associée à des maladies ou à la prise de certains traitements. Le diagnostic, lui, repose sur des signes cliniques et sur un examen, la densitométrie osseuse, qui permet d'évaluer le déficit de masse osseuse, prise en charge qui repose sur des traitements, mais aussi des mesures préventives qui s'appuient sur l'exercice physique, l'apport en vitamines et minéraux et en période de ménopause. Pour certaines femmes, le traitement hormonal, une prise en charge personnalisée et bien sûr, une réflexion sur les moyens pour limiter le risque de choc, le risque de chute, car ces fractures peuvent, avec l'âge, avoir un véritable impact en termes de qualité et d'espérance de vie. Si vous ou quelqu'un dans votre entourage êtes concerné par l'ostéoporose, appelez-nous pour témoigner, posez vos questions, notre numéro 33 84 22 75 75 ou laissez votre message sur la page Facebook de l'émission. Prévention, diagnostic, prise en charge de l'ostéoporose. Pour en parler avec nous, on retrouve en ligne et en direct de Lille, professeur Julien Pacou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de rhumatologie au CHU de Lille et vous vous trouvez dans les locaux de nos confrères de France Bleu Nord que l'on remercie pour leur hospitalité, bien sûr. Vivre au quotidien avec l'ostéoporose. Nous entendrons tout à l'heure le témoignage de Claire Cardon. Elle est membre de l'AFLAR, l'association française de lutte anti-rhumatismale. Et puis, nous retrouverons en ligne du Sénégal le professeur Saïdou Diallo, chef du service de rhumatologie au CHU Aristide Le Dantec de Dakar, directeur du diplôme du DES de rhumatologie à l'université Cheikh Anta Diop. Et en fin d'émission, on va retrouver le professeur Thibaut Moreau, neurologue, membre du comité médico-scientifique de la Fondation pour l'aide à la recherche sur la sclérose en plaques, à la veille de la journée mondiale dédiée à cette maladie neurologique.
Priorité santé sur RFI.
Il y a quelques années, professeur Julien Pacou, 3 ans précisément, le groupe d'information et de recherche sur les ostéoporoses avait lancé une alerte sur les manques, hein, sur le déficit de prise en charge de cette maladie du squelette. De moins en moins de patients traités, de moins en moins d'examens de dépistage. Est-ce que cette tendance, elle est aujourd'hui toujours d'actualité ?
Oui, malheureusement, cette tendance est toujours d'actualité. Ça n'est pas uniquement en France, hein. C'est quelque chose qui est constaté au niveau mondial. Et on a notamment des chiffres en Grande-Bretagne et aux États-Unis.
Et comment on explique justement cette baisse de la prise en charge ?
Il y a une désaffection pour cette maladie avec une certaine méconnaissance à la fois du grand public et également des professionnels de santé et en première ligne les médecins traitants parfois.
Est-ce qu'on peut dire que l'ostéoporose, c'est d'abord une maladie associée au vieillissement, professeur Pacou ?
Alors c'est tout à fait exact de dire que c'est une maladie qui est associée au vieillissement, mais ça n'est pas une maladie, c'est pas une fatalité uniquement liée à la vieillesse, ça c'est important.
Et puis il y a une image, hein. On a cette image d'une femme d'un certain âge atteinte d'ostéoporose, qui a donc dépassé généralement la cinquantaine. Est-ce que ça correspond à la réalité ?
Oui, ça touche essentiellement les femmes, mais les hommes peuvent également être touchés par l'ostéoporose. Les patientes que l'on voit en consultation ont en général entre 50 et 90 ans.
Alors pour développer un petit peu plus, professeur Julien Pacou, quel est le lien de causalité entre justement la ménopause et la perte osseuse ? Parce que quand on dit ostéoporose, on a tout de suite l'image des fractures.
En fait, le lien avec la ménopause est très simple. La ménopause, ça signifie l'arrêt de la sécrétion des œstrogènes. Et les œstrogènes, comme d'autres hormones et d'autres facteurs, sont indispensables à la bonne santé osseuse. Donc il y a une perte osseuse accélérée au moment de la ménopause.
Alors, du point de vue physique, comment l'os se fragilise-t-il ? On dit qu'il perd en densité, ça veut dire quoi concrètement ?
En fait, il y a une altération à la fois de la masse osseuse, donc on perd de la masse osseuse, mais c'est pas uniquement un problème de quantité, il y a également une détérioration de la qualité de cet os.
Parce que beaucoup de gens l'ignorent, hein. L'os, il se renouvelle, il se répare en permanence, ça veut dire qu'il change au fil des années, c'est bien cela, au-delà bien sûr de la croissance de l'enfant vers l'âge adulte, l'os, il continue de bouger dans notre corps?
Oui, c'est quelque chose de passionnant. C'est vrai qu'on a cette image un peu figée du tissu osseux, mais c'est effectivement un tissu en renouvellement permanent, comme d'autres tissus, notamment la peau, même si le renouvellement est moins rapide que pour la peau, bien entendu.
Alors maintenant, du côté du diagnostic, professeur Julien Pacou, sur quelles données, quels signes reposent justement, on va dire d'abord le dépistage et puis ensuite le diagnostic lorsqu'il est posé?
Donc globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ostéoporose est une maladie silencieuse. Donc si on ne fait pas de dépistage ou s'il n'y a pas la survenue de la complication qui est la fracture, on ne fait pas forcément le diagnostic de cette maladie. Les patientes ne se plaignent de pas grand-chose avant la fracture, par exemple. Le dépistage, c'est essentiellement la réalisation d'une densité minérale osseuse et celle-ci est réalisée s'il y a des facteurs de risque.
Par exemple ?
Donc la prise de certains médicaments, comme vous l'avez évoqué dans l'introduction, les corticoïdes, pris de façon prolongée et à bonne dose, sont des facteurs de risque de survenue d'ostéoporose.
On va dire chez les femmes ménopausées par exemple, quelle proportion de ces femmes sont, on va dire, dépistées, font ce fameux examen clé justement pour le diagnostic ?
Alors c'est difficile d'avoir des chiffres, et ça n'est pas comme le cancer du sein par exemple, où il est organisé un dépistage de masse, ça n'est pas le cas pour la densité minérale osseuse. Alors bien sûr, avec le GRIO dont vous avez parlé, le groupe de recherche et d'information sur les ostéoporoses, nous essayons de mettre en place un dépistage systématique, peu de temps après la ménopause, avec la réalisation de la densité minérale osseuse, qui n'est pas très coûteuse, hein, c'est moins de 40 euros.
Alors quand on parle d'ostéoporose secondaire, professeur Julien Pacou, de quoi s'agit-il ?
Donc c'est une ostéoporose qui est secondaire à une autre maladie, et par exemple, ou à un autre traitement, et c'est notamment, on parlait du cancer du sein, donc les patientes qui ont un cancer du sein ont parfois des traitements complémentaires, qui sont des anti-aromatases, bon c'est un traitement dans certains cancers du sein, et qui induit également une perte osseuse, et dans ces cas-là, on parle d'ostéoporose secondaire à ce traitement qui induit la perte osseuse.
Alors coexistence donc de plusieurs pathologies, tout de suite, un témoignage dans Priorité Santé. Nous sommes en ligne avec Claire Cardon. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Association française de lutte antirhumatismale, la FLAR. Claire Cardon, vous êtes concernée par deux de ces maladies rhumatismales, la spondyloarthrite et l'ostéoporose, c'est bien cela ?
Tout à fait.
Alors dans quelles circonstances, dites-nous, ce diagnostic d'ostéoporose, puisque c'est la thématique de notre émission d'aujourd'hui, ce diagnostic a-t-il été posé ?
Il a été posé dans le cadre de ma maladie d'origine, donc la spondyloarthrite, parce que nous sommes soignés par cortisone. Et la cortisone est un facteur qui peut causer l'ostéoporose. Voilà, donc on m'a fait des bilans pour voir où on en est exactement. On a découvert que j'avais de l'ostéoporose.
Vous aviez quel âge à ce moment-là ?
J'avais 47 ans.
Ça veut dire qu'on a eu des soupçons, c'était un petit peu en quelque sorte des examens préventifs, il n'y avait pas eu à ce moment-là des fractures ?
Non, c'est un examen préventif. Et d'autre part, je dois ajouter que dans le cadre de la ménopause, j'avais bénéficié aussi d'un traitement hormonal de substitution.
Alors Claire Cardon, on vous donne des médicaments pour prévenir en quelque sorte la prévention de l'ostéoporose. De quoi s'agit-il à ce moment-là ?
C'est pour, on s'est aperçu en fait grâce à un examen qui s'appelle l'ostéodensitométrie que les résultats n'étaient pas bons, donc il fallait remonter. C'est une courbe hein, avec des chiffres en dessous, au-dessus. Le chiffre est très nettement en dessous, donc on m'a donné des traitements pour faire remonter le chiffre.
Alors vous avez eu des traitements malgré tout. Est-ce que l'ostéoporose a eu un impact sur votre qualité de vie, sur votre santé, en particulier sur la santé de vos os ?
Dans un premier temps, non, puisque ça ne m'a pas empêché de me casser. Je me suis cassé des côtes, je me suis cassé le bassin et je me suis cassé un poignet. Donc à chaque fois, on a renforcé le traitement pour essayer d'adapter le traitement par rapport à mes problèmes. Le poignet, j'ai été opérée. Donc ça veut dire immobilisation, ça veut dire dépendance, ça veut dire le bassin, à mon âge, on ne fait pas grand-chose. Hein, on essaye d'immobiliser, mais on mène quand même une vie à peu près normale. Et les côtes, c'est pareil, les fractures de côtes, ça fait très mal pendant 15 jours, 3 semaines, et après ça s'estompe, voyez. Mais avant les fractures, je ne peux pas dire que l'ostéoporose me faisait mal. Par contre, il y avait la contrainte de prendre régulièrement des médicaments alors que je n'avais pas mal. Voyez.
Est-ce que vous aviez reçu justement, parallèlement à ce traitement préventif, bien sûr, qui n'a pas empêché les fractures, est-ce que vous avez reçu des conseils en matière de nutrition, de diététique, Claire Cardon?
Oui, bien sûr. Notamment la supplémentation en vitamine D, une exposition au soleil de temps en temps, puis perdre un peu de poids le cas échéant, de la marche, et puis ne pas prendre de risques. Par exemple, même avant mes fractures, on m'avait dit « ne montez pas sur un escabeau », n'adoptez pas une conduite à risque. Oui, ça, je le savais à l'avance.
Et le fait, justement, que vous suiviez tous ces bons conseils, que vous soyez en quelque sorte une bonne élève et que, malgré tout, il y ait les fractures au bout du compte, comment vous avez ressenti cette forme d'injustice? Vous faites ce qu'il faut et puis, finalement, eh bien, votre corps vous lâche.
Je fais au mieux et il y a de nouveaux médicaments qui sont apparus et qui ont fait leur preuve puisque maintenant, le chiffre de mon ostéodensitométrie est bon. Donc on a arrêté les traitements. Donc vous voyez, même si à une époque ça n'a pas suffi, moi je peux témoigner que l'ostéoporose, ça se guérit.
En tout cas, votre fragilité osseuse a été stoppée. Comment est-ce que vous décrivez aujourd'hui l'impact qu'a eu cette maladie sur votre qualité de vie?
J'ai eu des prothèses à la suite de certaines fractures. J'ai tout aménagé chez moi en fonction de mes besoins immédiats, à savoir tout à portée de main. Pas d'étagère trop haute, voyez, pas de choses trop lourdes. En fait, c'est une question d'aménagement de la vie quotidienne.
Votre dernière fracture, elle remonte à quand?
C'est le poignet, ça remonte à 2012.
Donc, il y a 7 ans, est-ce que l'on vit comme ça dans l'appréhension, ou maintenant, justement, que vous avez aménagé votre cadre de vie, que vous avez eu ces chiffres, disant que, finalement, la maladie avait été freinée, aujourd'hui, vous êtes sereine par rapport à tout cela?
Je suis sereine, mais je ne me fais pas d'illusions. Je sais très bien quand même qu'il faudra toujours faire attention. Les trottoirs glissants, les trottoirs en pente, je ne vais pas aller faire de la randonnée. Et par exemple, dans un magasin, comme par hasard, c'est toujours au dernier rayon, les choses dont on a besoin, je demande à quelqu'un de me les attraper. Éviter les tapis pour pas glisser dessus. J'ai des petits-enfants, donc dès que je vois un jouet traîner, je me méfie au maximum.
Ça veut dire que ça a changé vos habitudes de vie, hein?
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Parce que j'ai peur de tomber.
Oui, je comprends bien. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup, Claire Cardon, pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes membre de l'Association française de lutte anti-rhumatismale. Et on retrouve toujours en duplex de Lille, dans les studios de France Bleu Nord, professeur Julien Pacou, professeur de rhumatologie au CHU de Lille. Alors, professeur Pacou, témoignage avec très clairement le lien posé entre une première pathologie et puis après, il y a l'impact sur la santé osseuse avec la prise de certains médicaments, professeur Pacou.
Oui, c'était un témoignage très intéressant. Ça illustre bien que la maladie est silencieuse jusqu'à la survenue de la complication qui est la fracture. Et cette patiente, malheureusement, a eu plusieurs fractures. On parlait d'ostéoporose secondaire tout à l'heure. Effectivement, la spondyloarthrite est une maladie qui est associée à l'ostéoporose. Et la corticothérapie qui a été prise par cette patiente a malheureusement aggravé encore la situation.
Apparemment, du côté aussi bien de la complémentation alimentaire que des médicaments, ça a marché. Qu'est-ce qui est prescrit, professeur Julien Pacou? Et comment est-ce qu'on détermine que telle ou telle solution, que telle ou telle molécule soit prescrite en fonction justement de l'avancée de l'ostéoporose?
Donc il faut bien distinguer le traitement préventif, qui consiste à garder une bonne santé osseuse, du traitement de la maladie, notamment lorsqu'il y a des fractures, ce qui est le cas de cette patiente. Donc il faut toujours associer une supplémentation vitamino-calcique, des activités physiques, réduire le tabac et l'alcool. Et ensuite, il existe différents médicaments, et le choix du médicament se fait en fonction de différents paramètres. Et le paramètre le plus important, ça reste le choix du patient, c'est-à-dire si le patient adhère à la mise en place de tel ou tel traitement.
Quand vous parlez d'apport, il s'agit de supplémentation extérieure ou c'est dans le cadre même de l'alimentation?
Alors j'ai tendance à recommander la solution naturelle entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut environ 1 gramme de calcium par jour et on peut tout à fait le trouver dans l'alimentation. Et concernant la vitamine D, on n'a pas fait mieux que l'ensoleillement, même si l'ensoleillement n'est pas suffisant, comme c'est parfois le cas à Lille. On peut utiliser dans ces cas-là une supplémentation en vitamine D en prenant des ampoules régulièrement.
Professeur Pacou, quand on est justement sous traitement pour ostéoporose, c'est pour plusieurs années, c'est pour toute la vie, comment ça se passe?
Alors, contrairement à certaines maladies chroniques comme le diabète ou l'hypertension artérielle, le traitement de l'ostéoporose n'est pas forcément à vie. On parle de séquence thérapeutique. Donc, la discussion initiale avec le patient avant le début du traitement, on parle d'une première séquence qui va de 3 à 5 ans en général. Et à la fin de cette séquence, on réévalue s'il faut poursuivre le traitement en fonction de différents paramètres et notamment la densité minérale osseuse.
Alors justement, est-ce qu'il y a des recommandations particulières en matière d'arrêt des traitements ? Pas mal d'articles ont été publiés au sujet d'un médicament particulier qui s'appelle le Prolia. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet ?
Alors c'est un médicament particulier puisqu'il a un effet on-off, contrairement à d'autres traitements qu'on appelle les biphosphonates et qui restent dans l'os même une fois qu'on arrête de les prendre. Avec le denosumab, globalement, quand on arrête le médicament, celui-ci est totalement en dehors de l'organisme. Et donc, il a été décrit, effectivement, le risque de survenue, notamment de fractures vertébrales et de plusieurs fractures vertébrales. Donc, ce qu'il est recommandé, c'est systématiquement de prendre un relais avec un autre traitement, et notamment les bisphosphonates.
Alors, professeur Pacou, on va tout de suite donner la parole aux auditeurs et auditrices de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et première auditrice en ligne de région parisienne, c'est Leslie. Bonjour Leslie.
Bonjour Caroline.
On vous écoute Leslie, allez-y.
Alors j'ai des antécédents familiaux d'ostéoporose puisque ma mère et ma sœur dès l'âge de 45-50 ans ont été détectées avec une ostéoporose assez importante. Elles ont leur mère qui est restée 14 ans alitée. On soupçonne un cancer des os, mais à l'époque, il n'y avait pas de dépistage pour ça. Donc, ma question, comme j'approche des 50 ans, c'est est-ce qu'il y a un aspect héréditaire à cette ostéoporose et à ce moment-là, est-ce qu'il faut commencer une complémentation assez tôt et laquelle ? J'ai aussi des gros problèmes d'insomnie et ça m'a occasionné des entorses à répétition, quelques fractures spontanées. Et je me pose la question si justement ça n'aggrave pas en plus du fait d'avoir ces antécédents familiaux. Et à ce moment-là, est-ce qu'il faut une alimentation particulière ou une complémentation ? Est-ce qu'il faut faire du sport ou pas ? Ou est-ce qu'il faut faire simplement les examens d'ostéodensométrie un peu plus tôt que la normale ?
Beaucoup de questions chez Leslie, professeur Julien Pacou. On va commencer par la dimension héréditaire. Quand l'entourage féminin est concerné, est-ce qu'il y a des risques accrus ? Est-ce que c'est un facteur qui augmente le risque d'avoir soi-même de l'ostéoporose, professeur Pacou ?
Oui, c'est une question importante et c'est clairement démontré. Il y a effectivement une hérédité dans la survenue de cette maladie. Et ça représente 60 à 80% de la masse osseuse que l'on obtient entre l'âge de 20 et 30 ans. Et au fur et à mesure de la vie, on perd de la masse osseuse avec la possibilité de développer une ostéoporose. Donc c'est d'autant plus important d'obtenir ce pic de masse osseuse entre 20 et 30 ans. Mais si vous n'avez pas bien choisi vos parents, ça c'est important, votre masse osseuse entre 20 et 30 ans, malheureusement, peut être relativement basse et vous exposer à un risque important d'ostéoporose à l'âge adulte.
Ça veut dire que, par exemple, dans le cas de Leslie, cet examen particulier pour justement se faire une idée de la densité osseuse, eh bien c'est important de le faire ?
Oui, très clairement, chez votre auditrice, je lui recommanderais de réaliser cet examen de densité minérale osseuse. Et il est par ailleurs remboursé si son père ou sa mère a présenté une fracture de hanche.
Qui peut lui prescrire ? Son gynécologue, un rhumato ? Vers quel spécialiste se tourner ?
Tout simplement vers son médecin traitant.
Le médecin traitant. Du côté, là, non pas des examens, mais bien déjà des mesures peut-être qu'elle peut prendre. Leslie nous demandait, est-ce que déjà au niveau de l'alimentation, elle doit avoir des soins particuliers, prendre des choses particulières ? On peut lui dire des choses en la matière ou justement quand elle ira voir son médecin traitant, il pourra lui donner toutes ses indications ?
Oui, je pense qu'en premier lieu, il faut qu'elle fasse un dépistage compte tenu des antécédents familiaux et notamment une densité minérale osseuse.
Et justement, l'activité physique, qui peut conseiller en la matière ?
Mais c'est tout à fait le médecin traitant ou d'autres professionnelle de santé, un kinésithérapeute, parce que j'ai cru comprendre qu'elle avait présenté des entorses. Donc son kinésithérapeute peut l'orienter vers des activités physiques. Et c'est important pour une bonne santé osseuse d'avoir des activités physiques en charge. Il faut des contacts avec le sol, notamment pour que les os se renouvellent et restent en bonne santé.
Leslie, vous en avez déjà parlé de ces problèmes et de ces antécédents à votre médecin ?
Non, pas encore, mais comme j'approche de l'âge où on a fait le dépistage pour pour ma tante et ma mère, forcément ça m'interpelle et donc ça fait partie des choses auxquelles je pense.
Et donc vous allez prochainement prendre rendez-vous pour avoir justement cette consultation spécifique et peut-être vous faire prescrire cet examen ?
Là, vu ce que je viens d'entendre, oui.
bon rendez-vous alors, hein, Leslie. Très bonne journée à vous. Très bonne journée. On va partir pour Madagascar, pour la ville d'Antirabe, où l'on retrouve Chantal. Bonjour Chantal.
Bonjour Catherine.
C'est Caroline, mais ça va très bien.
Excusez-moi Caroline.
Le professeur Julien Pacou vous écoute, allez-y. Allez-y Chantal.
Ah oui, alors j'ai deux questions. Est-ce que l'ostéoporose affecte uniquement les femmes ?
Mm-hmm.
Et ma deuxième question, est-ce qu'il y a un sport conseillé ou déconseillé pour les gens qui ont l'ostéoporose ?
Alors professeur Pacou, c'est vrai que depuis le début de cette émission, on parle surtout des femmes, hein, maladie au féminin. Malgré tout, il y a aussi des hommes qui sont concernés.
Oui, bonjour Chantal. Oui, tout à fait. L'ostéoporose est plus fréquente chez les femmes, mais les hommes ne sont pas en reste. Et certains hommes, après la cinquantaine, peuvent également présenter une ostéoporose et des fractures liées à cette ostéoporose.
Tout à l'heure, vous disiez, par rapport à la question de Leslie, que son médecin généraliste pouvait lui aussi lui conseiller une activité sportive. Mais vous, dans votre pratique, les patients que vous prenez en charge, ils font quoi en général comme activité qui, justement, leur réussit le mieux ?
Alors, on parle d'activité physique et pas forcément d'activité sportive, puisqu'en général, les patientes sont relativement âgées et des choses très simples, c'est-à-dire marcher régulièrement.
Vous, Chantal, vous-même, vous faites une activité physique ou sportive ?
Oui, je fais du lawn tennis, mais très peu. Hein. Mais alors, justement, je voudrais savoir si ce sport est conseillé. On m'a pas détecté l'ostéoporose, mais à un moment, on a eu un petit soupçon, mais apparemment, je l'ai pas. Mais je me demande si le tennis est quand même conseillé pour ce genre de maladie.
Vous n'avez pas présenté de fracture. Vous n'avez pas présenté de fracture, Chantal.
Non. À un moment, j'avais des douleurs. On a soupçonné, mais apparemment, je l'ai pas, quoi.
Professeur Pacou, question très concrète de Chantal sur sa pratique du tennis. Si elle n'a pas de problème d'ostéoporose et pas de fracture.
Non, c'est a priori. C'est l'idéal, un travail de coordination, un sport en charge et des exercices réguliers, c'est parfait.
Ben voilà, bonne continuation, c'est Roland-Garros en ce moment, donc en plus vous pouvez pratiquer le tennis et le regarder, c'est une très bonne chose. Très bonne journée à vous Chantal et bonne journée à Madagascar. Professeur Julien Pacou, on fait souvent le lien entre calcium et ostéoporose avec le cliché, hein, boire du lait ça apporte du calcium, est-ce que c'est vrai ?
Oui, beaucoup d'aliments qui contiennent du calcium et les produits laitiers en sont particulièrement riches. Pour les gens qui ont des difficultés avec les produits laitiers, notamment le lait, je recommande souvent l'utilisation de boissons riches en calcium avec des eaux minérales qui sont plus riches que d'autres. Donc il suffit de regarder l'étiquette de sa bouteille. Il faut essayer d'atteindre en général 1 gramme de calcium par jour. Donc si on consomme 2 à 3 produits laitiers, en général c'est suffisant.
Quand on dit qu'on ne fixe pas le calcium, ça veut dire quoi précisément ?
Alors là, il ne s'agit pas d'un problème d'ostéoporose, c'est dans d'autres maladies où il y a un défaut de minéralisation. Et là, on parle plutôt d'ostéomalacie, donc c'est un autre contexte. Mais dans l'ostéoporose, on fixe le calcium correctement.
Alors, à côté des traitements, donc, est-ce que c'est vraiment de la prévention de prendre du calcium et de veiller à justement la présence de vitamine D ou est-ce que ça fait partie du traitement véritablement ?
Alors, c'est dans la prévention de la survenue d'une ostéoporose et pour garder une bonne santé osseuse. Mais après, quand la maladie ostéoporotique est déclarée, c'est important d'avoir ces mesures, ces règles hygiéno-diététiques, calcium, vitamine D, et ce que l'on a dit concernant le tabac et l'alcool. Mais dans ces cas-là, quand la maladie est déclarée, il faut un traitement complémentaire.
Pour du côté des vitamines, vitamine D en particulier, c'est sous quelle forme, professeur Julien Pacou, sous forme de gouttes ?
Alors, l'idéal, c'est l'ensoleillement. et dans certains pays qui nous écoutent, il ne manque pas d'ensoleillement. Par contre, dans certaines régions où nous en sommes dépourvus, on peut effectivement utiliser la vitamine D sous forme de goutte ou sous forme d'ampoule. Et on recommande en général une ampoule tous les mois ou tous les deux mois.
Alors nous allons tout de suite partir pour le Sénégal.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Saïdou Diallo, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes chef du service de rhumatologie au CHU Aristide Le Dantec de Dakar. Est-ce que vous diriez aujourd'hui, professeur Diallo, que l'ostéoporose est un vrai problème de santé publique au Sénégal?
Oui, tout à fait. L'ostéoporose est un problème de santé publique mondiale. Et au Sénégal, il faut distinguer en ce qui concerne l'ostéoporose deux périodes. La période de 1960 au milieu des années 80, cette période est caractérisée par l'absence de rhumatologues et la rhumatologie était pratiquée par des internistes et des chirurgiens orthopédistes. Et c'est tout logiquement dans ce contexte que les études sont portées sur les fractures du col fémoral. Et une deuxième période des années 1980 à nos jours, marqué par la présence de rhumatologues occidentaux et de rhumatologues africains. Et cette période est marquée par une meilleure connaissance de la maladie qui est décrite dans ses aspects habituels.
Alors, meilleure connaissance qui permet de mieux faire le diagnostic. Est-ce que les personnes qui viennent consulter dans votre service, par exemple, professeur Diallo, elles connaissent le nom de la maladie, l'ostéoporose? Est-ce qu'elles connaissent l'existence de cette maladie?
Oui, certains patients connaissent la maladie, mais la majorité souvent découvre la maladie au stade de complications fracturaires. Et donc, c'est pourquoi il y a un intérêt d'en parler, comme l'émission de ce jour. Mais en fait, la maladie existe, hein, mais elle n'est pas diagnostiquée.
Alors, professeur Saïdou Diallo, on comprend bien, problème d'information, de sensibilisation. Quand vous prenez les patients en charge, précisément, quel type de fracture présente le risque le plus important de complications?
C'est naturellement la fracture du col du fémur. Cette complication est la plus grave. Toutefois, elle n'est pas la plus fréquente. C'est plutôt les fractures vertébrales qui sont les plus fréquentes. Elles sont asymptomatiques le plus souvent, découvertes au dépistage systématique. Donc, on fait systématiquement la prise de la taille pour voir est-ce qu'il y a d'ores et déjà une perte de taille, ce qui oriente vers un tassement vertébral.
Alors, quelle prise en charge proposez-vous quand, professeur Saïdou Diallo, le diagnostic d'ostéoporose est posé?
Oui, la prise en charge repose sur des mesures d'hygiène de vie, comme on l'a souligné. Mm-hmm. L'activité physique, la supplémentation vitamino-calcique, mais aussi nous disposons de bisfosphonate à Dakar maintenant. Et nous mettons les malades le plus souvent sous bisphosphonate.
Alors, certains médicaments disponibles, accessibles. Est-ce que tous les médicaments, est-ce que tous les traitements sont aujourd'hui disponibles, professeur Saïdou Diallo, au Sénégal?
Pardon, nous n'avons que les bisphosphonates, hein, mais on n'a pas les traitements innovants tels que le denosumab. Là, on n'a pas encore. Peut-être que c'est tout simplement lié à un problème du coût de ces médicaments qui reste un frein à leur accessibilité.
Problème d'accès au traitement, hein, comme souvent. Et à côté, justement, des médicaments, qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner aux auditeurs qui sont actuellement à l'écoute de Priorité Santé, on va dire au titre de la prévention, professeur Diallo?
Les conseils, c'est d'abord la formation. Il faut que c'est le préalable à une prise en charge optimisée de ces affections. Il faudrait qu'il y ait un plus grand nombre de rhumatologues. C'est dans ce cadre que l'UCAD a ouvert un DS de rhumatologie. Nous exhortons donc les jeunes à s'inscrire à la rhumatologie. Ensuite, que tous les praticiens prennent systématiquement la taille des patients, parce que souvent nos structures n'ont pas de toise. Il faudrait commencer déjà par prendre la taille des patients pour voir est-ce qu'il y a un déficit de la taille. Ensuite, procéder à un dépistage systématique. Et là, on a l'outil FRAX qui peut aider. Et en cas de diagnostic posé, évaluer ce qu'on appelle le risque fracturaire en prévenant les chutes.
Merci beaucoup, professeur Saïdou Diallo. Je rappelle que vous êtes également donc directeur de ce diplôme, ce DES de rhumatologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
RFI à Dakar, 92 FM.
En direct de Lille, professeur Julien Pacou, on vous retrouve à l'instant. Le professeur Diallo a évoqué l'outil FRAX. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet ?
Oui, bien entendu. L'outil FRAX, c'est une autre façon d'évaluer le risque de fracture. En fait, on met ensemble plusieurs facteurs de risque et on obtient un pourcentage qui correspond au risque de se fracturer dans les 10 ans. Et en fonction d'un seuil qui est prédéfini, on détermine s'il y a lieu de mettre en place un traitement. Les facteurs de risque qui sont utilisés pour le calcul du FRAX, F-R-A-X, c'est notamment l'âge, le sexe. On prend également les antécédents de polyarthrite rhumatoïde, de corticothérapie. On calcule l'indice de masse corporelle avec le poids et la taille, le tabac, l'alcool et certains autres facteurs. Et on peut y ajouter également la densité minérale osseuse, mais ça n'est pas systématique.
Tout à l'heure, vous parliez de l'ensoleillement en termes d'épidémiologie. Est-ce qu'il y a certaines régions du monde qui sont davantage concernées par l'ostéoporose ? Il y a bien sûr aussi le facteur déterminant démographique de l'espérance de vie.
Alors, c'est une question qui est difficile. Globalement, ça n'est pas que l'ensoleillement qui détermine le risque de fragilité osseuse, donc les autres facteurs concourent, mais en général, les sujets caucasiens sont plus à risque d'ostéoporose que les sujets à peau noire, par exemple.
Et quand on évoque les antécédents de fracture, hein, quand j'ai préparé cette émission, j'ai lu fracture sévère ou non. Comment est-ce qu'on distingue, professeur Julien Pacou, comment est-ce qu'on distingue les deux ?
Donc c'est un élément important. Vous avez rappelé dans votre introduction que les fractures ostéoporotiques étaient liées à une morbidité également, une augmentation de la mortalité. Et les fractures que l'on qualifie de sévères sont associées avec une augmentation du risque de décès, malheureusement. Et pour prendre un exemple, ce sont les fractures du col du fémur ou encore les fractures de vertèbres. On sait que ces fractures exposent un risque plus important de décès. Pour donner juste un chiffre très simple, on sait que dans l'année qui suit une fracture du col du fémur chez les femmes, un quart d'entre elles, malheureusement, décéderont. C'est énorme.
C'est énorme, effectivement. Alors, prise en charge plurielle et complexe, on l'a bien compris, de cette maladie des os, l'ostéoporose. Et puis, un effort particulier sur la prévention des chutes avec des chercheurs qui s'y attellent.
RFI.
Et on s'arrête sur cette étude qui concerne précisément l'évaluation des risques de chute. C'est très important quand on vient d'entendre les chiffres de la mortalité quand il y a par exemple fracture du col du fémur. Une étude clinique associe le service de rhumatologie de l'hôpital Cochin à Paris, un laboratoire pharmaceutique, l'Amgen et une société de dispositifs médicaux. Nous sommes en ligne avec Alexis Mathieu. Vous êtes directeur de cette société de dispositifs qui s'appelle FitMe. Bonjour Alexis Mathieu.
Bonjour.
Alors expliquez-nous, hein, pour commencer, bien sûr, en quoi consiste cette fameuse étude qui commence.
Alors vous l'avez expliqué, le risque de chute, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que chez le patient ostéoporotique, quand il tombe, il y a un risque de fracture important. Donc nous, chez FitMe, on développe des solutions qui permettent d'aider à évaluer la marche à domicile. Et on est en train de monter aujourd'hui une étude de manière à pouvoir être capable de détecter le risque de chute à partir des mesures qu'on va faire au domicile du patient.
Alors, combien de patients seront concernés par cette étude ?
Alors on va inclure un peu plus de 200, autour de 250 patients et on va les suivre à domicile à partir de notre dispositif médical qui est un dispositif médical connecté de manière à analyser leur marche en détail et voir si dans les données qu'on récolte il y a des facteurs prédictifs du risque de chute.
Ce sont des personnes âgées, ces patients sur lesquels vous allez équiper en quelque sorte de ce dispositif ?
Alors exactement, c'est des sujets âgés qui sont des sujets qui sont suivis au sein de l'hôpital de Cochin, dans le service de rhumatologie, dans une prise en charge classique. Et donc on va là les suivre de plus près en comptant leur nombre de chutes sur la période de l'étude, mais aussi en faisant des mesures ponctuelles de la qualité de leur marche à domicile.
Alors on essaye d'imaginer hein, ce à quoi ça peut ressembler, ce fameux dispositif. C'est quoi exactement ? Des sortes d'électrodes dans des semelles de chaussures, c'est quoi ?
Exactement. Alors en fait, le produit il est extrêmement simple. C'est une semelle comme on a tous dans nos chaussures. Et ça fait 6 ans qu'on travaille pour rendre cette semelle intelligente. En y intégrant.
C'est assez extraordinaire comme expression, la semelle intelligente.
Exactement. Et le mot est faible. On intègre plusieurs technologies de capteurs à l'intérieur qui nous permettent de mesurer à la fois les appuis au niveau du sol, mais aussi le mouvement. Et on mesure tout ça à très haute fréquence de manière à avoir un maximum de points d'information sur la manière dont va marcher la personne. Et la manière de marcher la personne, c'est un point d'entrée très important sur l'état de santé, mais aussi sur l'équilibre du sujet qu'on va suivre.
On l'a vu tout à l'heure avec une auditrice hein, qui témoignait dans Priorité Santé. Il y a bien sûr les conditions de la marche, il y a également l'aménagement de l'environnement. Est-ce que cette donnée est intégrée à votre étude ?
Alors en fait, on décrit vraiment la qualité de la marche et donc on est notamment capable de distinguer si le patient va être en intérieur ou en extérieur. Donc l'environnement, on est capable de contextualiser d'une certaine manière. Ensuite, on n'a pas, nous, d'informations directement sur l'intérieur du domicile, mais on a un contexte dans lequel est réalisée la marche et on essaye au maximum de se mettre dans des conditions qui sont reproductibles pour établir des facteurs prédictifs.
Alors comment est-ce que vous avez fabriqué ces semelles intelligentes directement en liaison avec les rhumatologues ? Comment ça s'est passé ?
Alors en fait c'est des semelles standards, donc voilà un modèle standard qui peut s'intégrer dans toutes les chaussures. Et nous on a développé une technologie propriétaire de capteurs qui est intégrée à l'intérieur de la semelle. Donc c'est une couche flexible qui est intégrée à l'intérieur de la semelle avec une partie électronique qui communique avec un téléphone par exemple. Et donc le patient lui va mettre une semelle standard, donc il ne va rien changer à ses habitudes de vie et on va aller l'évaluer à domicile. Donc, on va stocker toutes les informations et ensuite on va les analyser.
On va analyser ces informations, mais pour être très concrète, on va en faire quoi ? Si une personne âgée marche d'une certaine façon et que cela, on va dire, contribue à son déséquilibre, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses ?
Alors, il y a des actions très simples qui sont déjà mises en place aujourd'hui. C'est l'adaptation de traitement thérapeutique, mais c'est aussi la mise en place de rééducation et de rééducation fonctionnelle, donc par des kinés ou dans des centres de rééducation. Et donc, l'intérêt du système, c'est d'être capable d'identifier les patients qui en ont le plus besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas envoyer tous les sujets âgés en rééducation. Donc on a envie de se focaliser sur ceux qui ont un risque de chute le plus important. Et l'intérêt de notre solution, c'est d'être capable d'identifier les facteurs prédictifs pour pouvoir envoyer les patients le plus tôt possible en rééducation et puis ensuite être capable de mesurer l'efficacité que ça a. Parce que si ça ne marche pas, il faut changer de stratégie pour mieux prendre en charge le patient.
Merci beaucoup hein, Alexis Mathieu. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et directeur de cette société de dispositifs médicaux FitMe au centre de cette étude pour l'étude donc de l'ostéoporose.
RFI.
Et en particulier donc du risque de chute. On se retrouve pour la dernière partie de cet échange dans Priorité Santé. On parle toujours de l'ostéoporose avec vous, professeur Julien Pacou, en direct de Lille. Alors on a parlé donc des traitements, de la recherche, de la nutrition, de l'activité physique, une prise en charge multiple. Comment est-ce que les malades, les patients, professeur Julien Pacou, arrivent à gérer tout cela ? Comment est-ce qu'ils apprennent en fait à contrôler les risques associés à l'ostéoporose ?
Donc il y a une partie d'éducation qui est importante et une bonne partie de la consultation qui est dédiée à l'ostéoporose, c'est justement les informer sur la maladie et leur expliquer le traitement avec ses bénéfices et ses risques. Et dans cette consultation, il y a également une partie qui est consacrée à l'évaluation du risque de chute, qui est effectivement primordiale, et il existe des consultations spécifiques de la chute, mais le plus souvent, les patients bénéficient d'une prise en charge auprès du kinésithérapeute pour du renforcement musculaire et un travail de l'équilibre.
Et justement, on conseille de consulter à quelle fréquence quand le diagnostic d'ostéoporose est posé ?
Donc au début, c'est plus rapproché pour vérifier que le traitement est bien pris, qu'il y ait une adhésion du patient à son traitement. Et ensuite, les consultations peuvent être espacées. Mais disons qu'initialement, le suivi peut se faire tous les 3 à 6 mois et après tous les ans. Et bien entendu, le médecin traitant a une part très importante dans le suivi des patients. Donc il doit être au cœur de la prise en charge.
On a commencé cette émission par un constat assez négatif avec, on l'a dit, la baisse, on va dire, de la vigilance par rapport à cette maladie. On a bien compris toutes les stratégies à adopter pour améliorer la prise en charge. Qu'est-ce qui peut être fait justement concrètement aujourd'hui, professeur Julien Pacou, c'est ma toute dernière question. Qu'est-ce qui peut être fait pour essayer de limiter les fractures, limiter justement les risques pour les personnes âgées ou toutes les personnes concernées par l'ostéoporose ?
Donc il y a la première partie qui concerne la prévention, c'est globalement rester en bonne santé, donc nous en avons parlé largement. Et ensuite, une fois que la maladie est déclarée, il existe actuellement une campagne mondiale qui est menée par l'International Osteoporosis Foundation et qui consiste à mettre en place des filières fractures au sein des hôpitaux qui permettent de détecter les patients fracturés, de leur proposer une prise en charge et d'initier un traitement. Mais pour que ces filières fractures soient efficaces, il faut une collaboration étroite avec la ville et notamment c'est ce qui va être mis en place actuellement à Lille, puisqu'il y a une prise de conscience des pouvoirs publics de la nécessité de mieux prendre en charge cette maladie, étant donné la morbi-mortalité et le coût important lié à sa prise en charge, ou plutôt à son déficit de prise en charge actuel.
Quand vous dites les villes, c'est au niveau hospitalier ou c'est au niveau de l'aménagement de l'environnement ?
Les deux. C'est important que les hôpitaux prennent à corps ce problème, que ce soit les centres hospitalo-universitaires ou les centres hospitaliers généraux. Et puis encore une fois, la nécessité que la médecine de ville s'implique d'une façon plus importante.
Merci infiniment pour toutes ces explications, professeur Julien Pacou. Je rappelle que vous êtes professeur de rhumatologie au CHU de Lille. Et on remercie une nouvelle fois France Bleu Nord de vous avoir accueilli dans leur studio.
Priorité santé sur RFI.
Demain, c'est la journée mondiale de lutte contre la sclérose en plaques. Parmi les acteurs mobilisés pour faire avancer la recherche, améliorer la prise en charge de cette maladie neurologique, la Fondation pour l'aide à la recherche sur la sclérose en plaques, Fondation ARCEP, dont vous êtes membre du comité médico-scientifique. Professeur Thibault Moreau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue chef de service à l'hôpital de Dijon. La sclérose en plaques, maladie inflammatoire, auto-immune, qui touche le système nerveux central. Ça va jusque-là, je n'ai pas dit de bêtises ?
C'est parfait, c'est tout à fait ça. C'est vraiment une maladie du système nerveux central, c'est-à-dire à la fois le cerveau, le tronc cérébral et la moelle épinière.
Alors avec vous, on va parler de quelque chose de bien précis. Ce sont ce que l'on appelle les troubles invisibles associés. Professeur Thibault Moreau, de quoi s'agit-il ?
Alors c'est vrai que dans la sclérose en plaques, on a l'image d'une atteinte de la motricité, d'une faiblesse des membres, des troubles visuels, des troubles de la sensibilité, des troubles urinaires par exemple. Mais il y a en même temps plein de symptômes qui sont invisibles, non perçus par l'environnement, qu'il soit familial ou professionnel. Et ces symptômes, c'est peut-être le premier et le plus important et le plus symbolique, c'est la fatigue. Une espèce de fatigue qui tombe comme une chape de plomb, même si les gens n'ont pas de handicap permanent. Alors ça a des conséquences familiales terribles, professionnelles extrêmement importantes, parce que c'est ça qui va inciter l'arrêt de travail. Mais il y a aussi en même temps des symptômes aussi très latents et qui handicapent beaucoup les patients, c'est les troubles cognitifs. Des difficultés, par exemple, de mémoire, de concentration, qui fait que, sur le plan, par exemple, de la performance professionnelle, parfois on peut avoir plus de difficultés. Vous avez aussi des troubles comme la dépression avec le manque de confiance, des troubles sphinctériens, c'est-à-dire des troubles urinaires avec cette nécessité d'aller faire pipi fréquemment. Et tout ça, bien évidemment, donc a des conséquences en termes de qualité de vie et, je dirais, dans sa vie quotidienne, aussi bien à la maison qu'au travail, qui est extrêmement délétère et souvent crée une incompréhension de l'environnement parce qu'encore une fois, non visible.
Alors, dans la prise en charge de la sclérose en plaques, il y a notamment certains traitements pour freiner, voire bloquer les poussées inflammatoires. Comment est-ce qu'on explique la présence de ces signes invisibles, professeur Moreau, même si la maladie, on va dire, est stable, contrôlée, sans poussée, sans ces fameuses attaques inflammatoires? Comment ça se fait?
C'est une très bonne question, en ce sens que c'est vrai que vous avez une attaque inflammatoire très précise dans une zone du cerveau qui va avoir des conséquences. Si on atteint les zones motrices, et bien vous avez une baisse de la force. Et là, on a des symptômes qui sont plus permanents et qui ne sont pas forcément le résultat d'une zone précise d'atteinte du système nerveux central. Et c'est une approche des mécanismes de la maladie qui nous permet aussi de mieux comprendre cette maladie, en sachant qu'il y a probablement donc une atteinte en réseau, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne raisonne pas uniquement sur une zone précise anatomique, mais on sait que donc, le cerveau étant une espèce de grande centrale électrique, il y a de grandes connexions, donc de grands réseaux, qui traversent le cerveau et qui peuvent générer ces symptômes sur un processus non pas forcément explosif, inflammatoire, mais plutôt dégénératif ou de dysfonctionnement du passage de l'influx nerveux. Donc pour dire que à la fois ces attaques très focales, très localisées, et ben en même temps, on sait qu'il y a une maladie assez globale de ce système nerveux central et qui va s'exprimer par ces troubles invisibles, en particulier les troubles de mémoire et de concentration.
Et vous le disiez tout à l'heure, c'est important d'en informer aussi l'entourage parce que ça limite l'incompréhension. On peut voir, pour ceux qui sont vraiment proches des patients, voir un bilan inflammatoire qui montre ça va plutôt bien sur ce plan-là, les chiffres sont bons. Et puis la personne qui est très fatiguée, on va dire qu'il y a régulièrement ce qu'on appelle trivialement des coups de mou, ça permet d'expliquer à l'entourage que finalement, c'est pas quelque chose c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte et vivre avec cela.
Ah oui, c'est capital. Le symptôme, par exemple, fatigue, même chez les gens qui ont un handicap, c'est la première plainte des patients. Et donc, a fortiori, quand les gens n'ont absolument pas de gêne, encore une fois, au quotidien pour bouger les mains ou bouger les jambes, il y a cette fatigue qui arrive très, très fréquemment. Et il est indéniablement capital d'en parler aussi bien dans le monde professionnel, et on insiste beaucoup, nous, avec le relais médecin du travail, par exemple, qu'à la maison, en sachant que, je vous dis, c'est la première cause d'arrêt de travail. Hein, donc, il y a presque donc un quart des patients qui, après 5 ans de sclérose en plaques, même sans handicap permanent, ne sont plus en plein emploi. Et puis les conséquences familiales, hein, ça peut, la dame n'a pas envie d'aller au cinéma parce qu'elle est fatiguée, et ça peut créer vraiment des problèmes donc dans le couple, dans la famille, dans les projets de vie, hein, chez des gens qui construisent leur vie. Hein, c'est des gens qui ont entre 25 et 30 ans pour aller au sport, pour partir en vacances. C'est vraiment des symptômes qu'il faut prendre aussi bien donc en compte que les poussé avec l'IRM bien positive et tout. C'est vraiment capital que la prise en charge soit très globale.
Et du côté des patients, s'écouter, c'est ce que vous leur dites? Écoutez-vous?
Ouais, moi je crois que ce qu'on a envie de leur dire, c'est qu'il faut que la vie soit la plus normale possible, même si elle est forcément un peu adaptée. Mais n'empêche qu'il faut que les projets de vie soient maintenus, et en sachant qu'encore une fois, si c'est un peu plus lent pour remplir une tâche intellectuelle ou pour passer d'une pièce à l'autre, c'est pas un drame. Mais néanmoins, donc il faut essayer de gérer pour le coup ces symptômes pour qu'il y ait une vraie harmonie au quotidien pour soi, et aussi pour l'entourage, la famille, et puis bien sûr le maintien dans le monde professionnel.
Merci professeur Thibault Moreau. Je rappelle que vous êtes neurologue, membre du comité médico-scientifique pour la fondation ARCEP. Demain, donc journée mondiale de la sclérose en plaques, opération baptisée Maison de la CEP, hein, jusqu'au 7 juin dans 14 villes, des rencontres entre patients, praticiens et bien sûr les familles. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour la fabrique, la réalise. Demain, vous pourrez réentendre notre émission Sport et Nutrition avec toutes les questions de vous, auditeurs et auditrices. On se retrouve à 9h10, temps universel, demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les transporteurs professionnels, profitez d'une assurance dans plus de 14 pays pour l'acheminement de vos marchandises. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.